l'Académie française, homme de lettres, homme de savoir, et Jean-Philippe Smet, rocker, biker, homme de chansons et de divertissement. Chacun à sa façon a accompagné les Français pendant près d'un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Puis rapidement, à 2 jours d'intervalle, ils sont partis. Et ils laissent beaucoup de Français, un petit peu comme orphelins. On pense ce qu'on veut, mais la réalité, c'est ça. Deux hommes qui ont eu une grande influence dans toutes ces dernières décennies. Il y en a un qui nous laisse ses livres, l'autre qui nous laisse ses disques. Personnellement, j'ai été lecteur de l'un et auditeur de l'autre. Et leur mort cette semaine m'a pas, enfin la semaine dernière, m'a pas laissé complètement insensible. Et en fait, leur mort, comme toute mort, nous ramène à l'essentiel de la vie, à la recherche du sens de notre vie, de son but, de sa raison d'être. Quelle aura été sur cette terre l'utilité de ma vie? Quelle trace je laisserai à la postérité? Qui aurais-je enrichi par mon passage ici-bas? À qui ou à quoi aurais-je donné naissance? Qu'est-ce que j'aurais construit pendant mon passage? Quelle pierre j'aurais apporté à la construction de la communauté où Dieu m'a placé? Alors c'est drôle parce que ces deux événements qui sont survenus, ces deux morts, ça arrive au moment où j'étais en pleine réflexion pour le message de ce matin, où j'avais déjà le verset biblique et où je réfléchissais dessus. Et ces deux décès ont enrichi un petit peu et ont confirmé un petit peu ce que je ressentais sur justement cette marque. On a une vie et elle est extraordinaire, avec des jours et des nuits, au sens propre et au sens figuré, mais la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau de Dieu. Et je voudrais partager ce matin sur un texte qui a toujours été très important pour moi. C'est un court verset, mais qui, depuis des années et des années, c'est comme un phare dans ma vie. C'est comme un guide sur le chemin. C'est un texte qui contient des clés pour réussir sa vie et pour réussir dans la vie. Donc, je vais vous le partager. Tu peux afficher, s'il te plaît. Voilà, c'est dans le livre du prophète Michée, au chapitre 6 et au verset 8. Un verset que je voudrais vous laisser ce matin. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur, demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est un verset tout simple, très court, mais je pense qu'on pourrait tous le mettre sur le fronton de nos vies. On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que Dieu demande de toi. Dieu te demande quelque chose ce matin. Dieu demande quelque chose de ta vie. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et puis que tu marches humblement avec ton Dieu. Et je trouve que c'est un phare dans une vie, ça. Quand on a toujours ça à l'esprit, on peut appliquer ce verset, cette parole sur nos vies, sur chacune de nos vies. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. On va parler de ça, que tu pratiques la justice d'abord. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 2, il est dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Mais moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Homme vain. L'homme vain, c'est celui justement où ben, ça sert à quoi la vie, quoi ? Ça sert à quoi ta vie ? Ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait par ses œuvres, avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Je trouve ce texte vraiment impressionnant et très éclairant sur cette notion de pratiquer la justice. Je sais pas, il y a une petite phrase là dans ce texte que je trouve très interpellante. Ça marche ? Oui. Non. Il est là. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Moi, j'ai toujours cru que avoir la foi, c'était quelque chose un peu d'intellectuel. C'était dans la tête, dans le cœur, je crois. Et ça sort par ma bouche, je le confesse. Et d'avoir la foi, une foi parfaite, c'est bien croire, c'est croire sans douter, c'est croire sans... Jacques dit, non, la foi parfaite, c'est celle qui a des mains. La foi parfaite, c'est celle qui a des mains. C'est celle qui va faire. Alors, Jacques ne remet pas en question le salut par la foi. Il ne parle pas du salut, là. Bien sûr que le salut, on l'obtient par la foi. Et ça, c'est un acquis, c'est clair. Mais une évidence de la foi, c'est les actions, c'est les œuvres. Et Jacques va tester la foi de l'auditeur ou de son lecteur, de ceux à qui il écrit, par rapport à ce qu'ils font. Et je trouve ça très interpellant. On n'a pas une foi parfaite tant que ce n'est pas une foi qui me pousse à... J'allais dire, tant que ce n'est pas une foi qui a des pieds aussi. J'ai parlé des mains, mais c'est une foi qui a des pieds. C'est-à-dire qu'elle me fait bouger. Et je crois que c'est ça, pratiquer la justice. Et toute la lettre de Jacques, c'est une lettre où il explique ça. Vous avez vu, j'ai mis les petits pointillés là parce que j'ai coupé un petit peu le verset. Mais ça parle de tout ça, de tout ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on doit faire, de tout ce que la foi nous amène à faire. Un jour, j'ai reçu une parole prophétique, c'était dans un week-end de jeûne. Et c'était un week-end de jeûne qu'on organisait à l'époque à Pâques, c'était dans les Cévennes, etc. Il y avait, je pense, une centaine de jeunes là, qui étaient là. Et le Seigneur m'avait dit de leur donner ce message. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Les paroles s'envolent, les actes restent. Et j'avais été le premier interpellé par cette parole que j'avais donnée aux jeunes, de réaliser que voilà, ce qui compte, ce n'est pas ce que je dis. Bien sûr que ce que je dis est important. Et le mot en hébreu, le mot parole et le mot acte, c'est le même mot. Davar. Et le mot parole, donc les paroles peuvent être des actes. Mais ce qui compte, c'est ce que je vais faire. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques ce qui est juste, la justice. Qu'est-ce qui rend parfaite notre foi selon ce texte ? Je l'ai dit, ce sont nos œuvres. Je me suis converti, je suis devenu chrétien à l'âge de 18 ans. c'était une conversion assez radicale. J'avais jamais tué, jamais volé, j'étais un gentil garçon. De ce côté-là, pas de problème. Mais ça n'empêche, ma conversion a été radicale. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit une quinzaine de jours après avoir donné mon cœur au Seigneur. Donc, j'ai commencé à parler en langue, à prophétiser, etc. Et une des premières paroles prophétiques que j'ai reçues personnellement, qu'on m'a données, qu'un frère de l'église où j'étais à l'époque à Reims m'a donnée, c'était cette parole-là. Tu as beaucoup reçu. Bon, c'est une parole de l'Évangile. Hein, il te sera beaucoup demandé. Et cette parole, elle m'a suivi aussi tout le temps. Non pas que j'y ai pensé ou qu'elle a mis la pression sur ma vie. Elle l'a mis un petit peu au départ. Oui, c'est vrai. Parce que je me suis dit, oulala, qu'est-ce que le Seigneur va me demander? Est-ce qu'il va me demander de donner ma vie pour lui? Est-ce que je vais mourir martyr? Mais le Seigneur, enfin jusqu'à ce jour en tout cas, ne m'a pas demandé de mourir pour lui, mais il m'a demandé de vivre pour lui. Et je crois que cette parole prophétique que j'ai reçue pour ma vie personnelle, je peux vous la transmettre pour vous. Parce que c'est une parole de l'Évangile, elle est pour chaque chrétien. Tu as beaucoup reçu. Et le Seigneur te demande beaucoup aussi. Ce que tu as reçu, c'est énorme. Tu as reçu le salut, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Tu as reçu le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Tu as reçu la puissance de guérir les malades, peut-être de ressusciter les morts. Qui est le premier volontaire pour que ça se passe? Pas pour mourir et ressusciter, hein, mais pour ressusciter les morts. Hein. Tu as reçu 24 heures par jour. Tu as reçu 24 heures par jour. Tu as reçu 365 jours, un quart par an. Vous savez que les grands héros de la foi, ils avaient 365 jours, un quart par an. Comme vous, comme moi. Ils n'avaient pas plus. Ça, c'est extraordinaire. L'apôtre Pierre va dire, 1 Pierre 4,10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette au service des autres, c'est ça les œuvres. C'est ça les œuvres de justice. Enfin, c'est beaucoup plus large que ça. Mais Pierre nous encourage. Vous savez que j'ai fait un message il n'y a pas longtemps sur la communauté, l'importance de construire une communauté, de servir une communauté, de se donner pour la communauté. Que chacun de vous se mette au service des autres et mette au service des autres le don qu'il a reçu. Tellement important. Je crois que l'esprit de service au milieu de nous, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de service. Et un croyant dans une communauté, c'est tellement important qu'il puisse sentir cet esprit de service. Et je sais que c'est en surabondance dans notre communauté. Mais c'est bien de le rappeler. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. C'est que tu pratiques la justice. On a vu tout ce qui se passe, on en a parlé, on a eu des témoignages et on sait tout le don de service. Et je crois que le Seigneur est heureux de ça. Le Seigneur est content. Il est content parce que c'est ce qu'il demande, tout simplement. Que tu pratiques la justice. Et faire des sozos, et faire un stand, et faire une école, et aller dans les rues, et passer la serpillière, et passer l'aspirateur, et se lever tôt, et prier pour la communauté, et visiter un frère, une sœur, et passer un coup de fil, etc., etc. C'est ça les œuvres de justice. Et c'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas une option. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que Dieu demande de toi. C'est normal. Tu as beaucoup reçu, il te sera beaucoup demandé. Et c'est vrai que des fois j'imagine un peu ce qui va se passer quand je vais partir et comment je vais me présenter devant Dieu et tout ça, comment ça marche, quoi. Et je me dis, bon, moi, de toute façon, je l'ai dit souvent, je n'aurai qu'une chose à présenter au Seigneur, c'est le sang de Jésus, rien d'autre. Mais la Bible me dit aussi qu'il y a des choses qui me suivent. nos œuvres nous suivent. Je ne sais pas si de temps en temps, vous, en marchant, vous vous retournez pour voir ce qui vous suit. Des choses vous suivent. Un sourire au bon moment. Un coup de balai au bon moment. Un encouragement au bon moment. Une parole de salut au bon moment. Une parole de guérison au bon moment. Une offrande importante au bon moment. Tout ça nous suit. C'est extraordinaire. De pouvoir. C'est pas dur d'être chrétien. Il faut juste abandonner sa vie, il faut juste donner, quoi. C'est pas difficile. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et que ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. C'est encore Jacques qui va nous dire, chapitre 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous commettez un péché. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Et en fait, Jacques tire son enseignement de Jésus. Tu seras jugé avec la mesure que tu as utilisée pour juger les autres. Ça, je trouve ça aussi quelque chose d'extraordinaire. Ce que Dieu me demande, ce que Dieu te demande, c'est que tu aimes la miséricorde. Et ça, je crois que c'est une mentalité. Autant l'appel au service, c'est une action. C'est pas... Alors ça devient aussi une mentalité, ça devient un réflexe. Le service pour les autres. Ah, moi, je suis appelé à être pasteur dans l'église. Je suis appelé à être un des anciens. Oui, c'est vrai. Mais 4 matins par semaine, je balaye là pour les petits qui vont venir. C'est normal, c'est la même chose. Et cette mentalité du service, elle est là. Mais plus que ça, la mentalité de la miséricorde. Je crois que dans l'Église et dans les relations dans l'Église, c'est vrai pour l'extérieur, mais je parle à une communauté là, et donc c'est vrai dans la communauté. Je crois qu'on peut s'examiner et dire, mais est-ce que j'ai cette mentalité de la miséricorde vis-à-vis des autres, des frères, des sœurs, de la famille et autour de moi? Jacques va dire, c'est la loi royale. C'est la loi du roi. Aime ton prochain comme toi-même. Et à ce moment-là, tu fais du bien. Si vous faites des différences entre les personnes, ah oui, celui-là, tu sais, bon, ah oui, vous commettez un péché. Dans l'Église, il n'y a pas de différence. On est tous des frères, des sœurs que Dieu a appelés à être unis ensemble et à avancer. Il n'y a pas un grand, un petit, il n'y a pas un valeureux et puis un trouillard. Si, il peut y avoir ça, mais ce n'est pas grave. On est tous des enfants du même Père. Et ça, c'est extraordinaire. Agissez, il dit, et parlez comme devant être jugé par une loi de liberté. C'est étonnant, ça. La loi, normalement, ce n'est pas la liberté, c'est la loi. Et la loi demeure. Jésus dit, la loi demeure. Pas un iota, pas un trait de lettre, pas un yud ne sera enlevé de la loi. La loi demeure. Mais parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Ça veut dire quoi? Libère ton frère, libère ta sœur. Sois libre, mais libère ton frère, libère ta sœur. Tellement important. Alors qu'on a tous tendance à nous attendre à l'autre, à voir les défauts de l'autre, à voir son imperfection, ce qu'il aurait pu mieux faire, ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait, ce qu'il aurait pu dire et qu'il n'a pas dit. la chose que j'ai attendue de l'autre et que je n'ai pas reçue, etc., etc. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Je sais pas vous, mais moi ça m'interpelle cette parole. Moi ça m'interpelle cette parole. Et il faut que vous me pardonniez quand vous avez eu l'impression que j'ai pas été miséricordieux avec vous. Mais il faut aussi que je le fasse pour vous. C'est ça l'Église. C'est un changement de mentalité. Ce n'est pas la mentalité du monde où c'est chacun pour soi et où c'est celui qui cherche à écraser l'autre. Non, non. C'est « je t'aime comme tu es ». Je me réjouis parce que Dieu va te faire progresser. Mais il y a une phrase, vous savez, qu'on répète parfois, où on dit, en fait, sur le front des chrétiens, il devrait y avoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, écrit quelque chose, c'est « en chantier ». En chantier. C'est pas fini. Frères et sœurs, je suis pas fini. Ça fait plus de 30 ans que je suis chrétien, mais je suis pas fini. Je suis en marche. Je suis en marche. Et j'ai besoin de votre miséricorde comme vous avez peut-être besoin de la mienne. La miséricorde, c'est l'amour. C'est dans le texte, je suis allé vérifier dans le texte hébreu, c'est le même mot que le mot bonté et que le mot grâce. J'ai besoin que vous me fassiez grâce. Et vous avez besoin que je vous fasse grâce dans plein de choses, parce qu'on vit ensemble, parce qu'on construit une communauté ensemble, parce qu'on avance ensemble. J'allais dire parce qu'on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. On avance ensemble. Et Jésus va dire une phrase, tu seras jugé avec la mesure que tu as utilisée pour juger les autres. Et quand il dit la mesure, vous savez, c'est ce genre de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, je n'ai pas retrouvé le nom. De ces mesures où, à l'époque, on utilisait, quand il n'y avait pas énormément de balance, on utilisait des mesures, c'est-à-dire un petit flacon, une petite boîte, et on disait, c'était marqué dessus 500 millilitres, ou il y a les trucs de cuisine là aussi, vous savez. Alors, il y en avait plusieurs, il y avait celui de 250, celui de 500, celui de 1 litre, ou au poids, pour peser les grains de blé, mettons, il y avait voilà, la mesure qui faisait l'hectolitre ou je ne sais pas quoi, enfin ou, bon, je ne suis pas du tout spécialiste dans tout ça. Mais voilà, le Seigneur dit, ben voilà, tu vois cette mesure-là, cette boîte-là, celle que tu utilises pour l'autre, c'est celle qui va être utilisée pour toi. Je ne vais pas juger l'autre en fonction de ce qui, ou je ne vais pas te juger toi en fonction de, je vais, comment tu as fait avec les autres ? Tu as été intransigeant avec les autres ? Eh bien, je vais être intransigeant avec toi. Tu as été intransigeant avec les autres, eh bien, je serai intransigeant avec toi. Ouf. Moi, je ne veux pas entendre ça. Tu as été bon avec les autres, tu as été miséricordieux, tu as eu tendance à pardonner, tu as eu tendance à dire, mais c'est pas grave, il est en marche aussi. Eh bien, je ferai ça avec toi. Waouh, extraordinaire. Et c'est un changement de mentalité. Tu as été dur, je serai dur. Tu as été bon, je serai bon. C'est interpellant, ça, hein ? Mais c'est l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le Seigneur ne nous enseigne pas à prier, ne pardonne-moi, Seigneur ! Non, non, non. Dans la prière qu'il nous enseigne, il dit pardonne-nous comme nous pardonnons. Et comme pour bien insister, il va plus loin. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes vos offenses, moi non plus je ne vous pardonnerai pas. Impressionnant quand même. Ça aussi c'est l'Évangile et c'est beau. C'est beau parce que ça crée une communauté d'amour. Ça crée une communauté où des fois on peut... peut-être avoir un coup de sang, s'engueuler, j'allais dire, pardon du terme, mais c'est le cas, pourquoi pas, ça peut arriver, mais on ne se couche pas sur la colère, on pardonne. Même s'il ne demande pas pardon, Seigneur, il est en marche. Peut-être peut-être il s'était disputé avec sa femme, peut-être il s'est fait taper sur le doigt avec le marteau et il n'est pas bien, peut-être qu'il a mal dormi, peut-être. Voilà. Amen. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes la miséricorde. C'est éteint ? Comment se fait-il ? Non, c'est branché là-haut en tout cas. C'est l'ordi ? D'accord. Il s'est peut-être arrêté quand le chauffage s'est arrêté. Finalement, pardon pour ceux qui écoutent là dans la cassette. Non, c'est plus les cassettes. C'est plus les cassettes. Vous voyez de quel siècle je suis. Ceux qui écoutent sur le site internet. Voilà. Mais apparemment, le thermostat s'est remis en route, c'est bien, puisque le chauffage s'est arrêté. Mais ça a arrêté l'ordi en même temps. Bon, ben ça fait rien. Donc je vous lis ce qui devait apparaître. Ça va peut-être revenir. Ce que la Bible nous enseigne, ce n'est pas la théologie de l'excuse, c'est-à-dire la permissivité. Tout est pareil, tout est bon. Tout... Non. C'est la théologie du pardon. Ce n'est pas pareil. La théologie de l'excuse, c'est quand on dit « c'est pas grave ». Mais si, Jésus va dire, si tu dis « raca », c'est-à-dire « tu ne vaux rien à ton frère », tu es passible du jugement. Donc ce n'est pas la théologie de l'excuse, c'est la théologie du pardon. C'est autre chose. Et ce qu'amène cette culture de la miséricorde au milieu de nous, ça amène qu'il y a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper. Ça amène qu'on a le droit à une seconde chance. Ça amène à ce qu'on a le droit d'essayer quelque chose, de prendre le risque. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça la loi de la liberté. La miséricorde parmi nous permet la liberté, permet d'avancer, permet de s'épanouir, permet de grandir. Amen. Le troisième point, c'est ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Parce que si tu as pratiqué la justice, c'est-à-dire si ta foi elle a des pieds et des mains, si tu aimes la miséricorde, c'est-à-dire que tu juges l'autre comme tu aimerais être jugé, il reste un troisième point. Parce que là, si ta foi est devenue parfaite par tes actes, si tes relations avec les autres sont devenues parfaites par la miséricorde, il manque encore un point. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Là aussi, j'ai pris deux versets que j'aime beaucoup, que je chéris beaucoup dans la Bible. Dans le psaume 115, au verset 3, il est dit « Notre Dieu est au ciel. » C'est quoi la suite ? Voilà, les hommes, des femmes qui connaissent leur Bible, c'est bien. « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Ce verset, en fait, il nous dit « Dieu est Dieu. » Dieu est Dieu. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Un autre verset dans l'Ecclésiaste au chapitre 5, verset 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Je vous le relis comme on ne l'a pas sous les yeux. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En tout, Dieu reste Dieu. Et ça, pour la vie du chrétien, pour l'équilibre de la vie du chrétien, pour l'équilibre psychologique du chrétien, l'équilibre intellectuel du chrétien, l'équilibre émotionnel du chrétien, c'est hyper important. Comme disent les Anglais dans une expression, à la fin du jour, c'est lui qui a raison. At the end of the day, c'est lui qui a raison. À la fin du jour, c'est lui qui a raison. À la fin de l'histoire, c'est lui qui a raison. En tout, Dieu reste Dieu. Dans les circonstances de ma vie, dans ce que je réussis, dans ce que je rate, dans ce qui marche, dans ce qui ne marche pas, à la fin du jour, c'est lui qui a raison. C'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas, avec Dieu, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de recette. Ça n'existe pas. Dieu ne se laisse pas enfermer dans une boîte. Mais Seigneur, tu as dit. Oui, mais j'ai aussi dit. Mais j'ai aussi dit. Même les lois qu'il a créées, Dieu reste maître de ces lois. Même les lois naturelles, Dieu en est le maître. Souvenez-vous, dans le désert, il y a un rocher qui est là, le peuple meurt de soif. Moïse, Dieu va dire à Moïse, tu vas parler au rocher, et puis il va sortir de l'eau. Non, non, Seigneur, dans les lois naturelles, un rocher, c'est un rocher. Les lois que tu as créées, Seigneur, il n'y a pas d'eau qui sort des rochers. Et bien là, l'eau est sortie. Souvenez-vous du temps de Josué. La course du soleil s'est arrêtée pendant un moment. Non, non, mais Seigneur, ça non plus, ce n'est pas possible. Tes lois que tu as créées, les lois de l'univers, le soleil, j'allais dire tourne autour de la terre. Non, mais c'est ce qu'on voit en tout cas. Hein. Le soleil se lève, le soleil se couche. Les planètes tournent, tout l'univers fonctionne. C'est tes lois, Seigneur. Oui, mais je suis libre de mes lois. Je fais ce que je veux. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et ce que je fais, c'est pour le bien. Et la course du soleil s'est arrêtée pendant, je crois que c'était 40 minutes, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus ça. Dans les lois naturelles, on marche sur la terre et on nage dans l'eau. C'est vrai, ou on coule, mais bon, ou on navigue. Jésus est libre. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Même les lois de la nature, il en est le maître. Dieu est Dieu. Et ça, c'est toujours très important. Parce que le jour où tout s'effondre dans ma vie, et ça peut arriver, et il y a des périodes, alors pas forcément tout, mais beaucoup de choses des fois, des fois, on ne comprend plus, ou c'est pas logique, c'est pas normal, ça ne correspond pas aux promesses, c'est pas ce qu'on a reçu, c'est pas. Mais si dans mon cœur, Dieu est sur le trône, c'est-à-dire que je reconnais, comme le dit l'Ecclésiaste, que moi je suis sur la terre et que lui, il est au ciel, alors je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Avec Dieu, quand on croit qu'on a tout compris, eh bien, Dieu garde la liberté de faire autrement. C'est à moi de m'adapter, pas à lui. C'est à moi de m'adapter à lui. C'est à moi d'être à l'écoute de l'esprit, à l'écoute de la parole, à l'écoute des circonstances pour naviguer dans la vie. Seigneur, tu es Dieu. Tu sais toutes choses. Et plusieurs fois dans nos vies, on a été amené avec Cathy à dire au Seigneur, bah, écoute, tu sais tout. Quand j'étais étudiant, les finances, c'était pas ça. Quand tout un tas de choses, des circonstances où, Seigneur, ben, écoute, on est à ta merci. Et j'aime de temps en temps dire au Seigneur, Seigneur, je suis à ta merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dépends totalement de toi. Seigneur, je suis à ta merci. Ma santé, mon travail, ma famille, Seigneur, je suis à ta merci. Mais vous savez ce que ça veut dire, le mot merci? Dans cette phrase-là, je suis à ta merci. C'est le mot qui est resté en anglais d'ailleurs, mercy. C'est la miséricorde. Seigneur, je suis à ta merci. On a l'impression que c'est, j'ai un peu peur, qu'est-ce qui va se passer? Non, Seigneur, je dépends simplement de ta miséricorde. Tu es Dieu, et tu es bon, et tu es au ciel, et tu fais ce que tu veux. Et je sais que tes promesses, pour moi, elles sont oui et amen. Ce qui fait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec toi. Mais je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors on prend ce texte à raison. Souvent dans les enterrements, ça a été dit d'ailleurs, hein, ça a été proclamé devant des millions de téléspectateurs ce week-end, ce psaume 23. Là. Parce qu'effectivement, c'est juste de l'utiliser par rapport aux enterrements. Mais David dit, quand je marche, il est bien vivant, Et il y a des fois dans nos vies et dans la vie de David, il avait l'impression que certaines circonstances le faisaient marcher carrément dans la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'était pas la fête, ce n'était pas la joie. Mais je ne crains aucun mal, je suis à ta merci. Je dépends de toi, Seigneur. Luc. Ah ben voilà, super. Luc 17, 10. Jésus va dire à ses disciples, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, c'est-à-dire, Seigneur, ok, je pratique la justice. Ma foi, elle a des jambes, elle a des mains. Ok, je pratique la miséricorde. C'est ma mentalité de la miséricorde. Je donne une chance, j'accepte, je pardonne, j'encourage. Je crois toujours que c'est possible. Ben, quand vous avez fait tout ça, dites, Seigneur, nous sommes des serviteurs inutiles. On a juste fait ce qu'on devait faire. J'aime cette phrase. On peut la prendre dans le mauvais sens, dire, mais alors Seigneur, tu es un serviteur, tu es un maître ingrat, tu t'en fiches de ce qu'on fait, tu nous... Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que dit le maître là, c'est ce que le serviteur dit. Le serviteur dit, mais Seigneur, j'ai fait que ce que je devais faire. Et même, j'allais dire, nous, notre logique, ce serait presque de dire, mais Seigneur, j'en ai pas fait assez. Et quand on a à cœur les âmes, même si on a amené une âme, deux âmes, 10 âmes, 15 âmes au Seigneur, on va dire, mais Seigneur, ça aurait été tellement mieux si j'avais pu en amener 20. Seigneur, j'ai pas fait assez, Seigneur. Je suis un serviteur inutile. Et Jésus nous dit ça. Reste à ta place, la belle place du serviteur au pied du maître. Il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Toi, tu es sur la terre. Non pas que Dieu est ingrat de ce qu'on aura fait, mais c'est simplement parce qu'on réalise que tout vient de lui. Et c'est le deuxième texte, 1 Corinthiens 4, 7. Car qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Donc ce n'est pas que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout n'a pas de valeur, Seigneur. Ouf, vous savez, cette fausse humilité évangélique. Hein ? J'aime pas, moi, des fois, quand un frère ou une sœur, on les remercie de ce qu'ils ont fait. « Oh non, non, mais ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. » Non, non, c'est toi. C'est toi qui as balayé. Merci. C'est toi qui as passé le coup de fil au frère et à la sœur. Merci. Non, non, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Quelle fausse humilité peut-être. Ou ça part peut-être d'un bon sentiment, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Seigneur, j'ai simplement fait, j'ai essayé d'être fidèle. J'ai simplement essayé de marcher humblement avec mon Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un homme dont il est dit qu'il a marché avec Dieu. Enfin, il y en a plusieurs. Mais il y en a un notamment où on sait très peu de choses sur sa vie. On sait son nom. Voilà, merci. C'est Martine. Martine, elle connaît sa Bible, c'est bien. Enoch. On connaît très peu de choses. On connaît son nom. On sait qu'il a marché avec Dieu. Puis il ne fut plus. Parce que Dieu l'enleva. C'est tout ce qu'on sait de sa vie. Enoch, il a marché avec Dieu. Puis il ne fut plus. Il a tellement marché comme il fallait que le Seigneur l'a pris. Il ne fut plus. Incroyable. C'est tellement beau de marcher. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Et humblement, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire de s'humilier, un pauvre pécheur, je suis nul, je suis moche, je suis tout ce que... Non, 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 c'est pas ça. Marcher humblement avec son Dieu, c'est dire, Seigneur, je marche avec toi. Je fais tout ce que je peux, tout ce qu'il y a dans mon cœur, tout ce qui brûle, je le donne, je le vis, je le fais de tout mon cœur, pour ma famille, pour l'Église, pour... mes patients, pour mon travail, pour je sais pas quoi, tout, voilà. Mais Seigneur, tu es au ciel, je suis sur la terre. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Et ce que j'ai, je l'ai reçu. Alors je vais pas m'en glorifier. Je vais pas m'en glorifier. Seigneur, si je peux passer le coup de balai, merci parce que tu m'as donné des mains. Bernard, il peut pas passer le coup de balai. Bernard, il peut pas passer. Il peut faire bien d'autres choses, mais il peut pas passer le coup de balai. Merci Seigneur, parce que tu m'as donné la santé pour passer le coup de balai. Extraordinaire. Il peut écrire, il peut parler, il peut faire plein de choses. Il peut prier. J'espère que tu pries souvent pour moi. J'en ai besoin. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies ? Qui est-ce qui doit être glorifié de ce que j'ai reçu et de ce que j'ai mis en pratique ? Ben c'est lui. C'est lui. Oui, tout a été fait. Ah, mais c'est de nouveau éteint, mince. Bon, il y avait une diapo qui disait le suivant. Ah, ça clignote. Oh là 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 là. Il y a des interférences. Hein. Bon, si tu y arrives, tu passes la dernière diapo qui dit oui, tout a été fait par lui et pour lui afin que tout revienne à sa gloire. Parce qu'à la fin du jour, à la fin de l'année, à la fin du temps, des temps, eh bien, tout reviendra à sa gloire. Tout, 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 tout. Et franchement, je vous ai partagé ce texte ce matin. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et je crois que c'est un bon cap à garder. Je voudrais vous inviter à vous lever. On va finir en partageant la Sainte Cène. Parce que je ne voulais pas terminer sans... Il est un petit peu tard, il est quart. Mais je ne voulais pas terminer sans qu'on puisse remercier le Seigneur. Parce que tout ça, ça se résume dans ce partage du pain et du vin, dans la croix. Parce que le plus grand exemple d'homme qui a marché humblement avec son Dieu, c'est Jésus. Le plus grand exemple d'homme qui a pratiqué la justice, c'est Jésus. Le plus grand exemple d'homme qui a aimé la miséricorde, c'est Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais demander à Farid, Irina, de partager, de faire passer le pain et le vin avec David, s'il te plaît. Voilà. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie. Merci Jésus parce que tu nous as montré un exemple à suivre. Merci parce que c'est un grand privilège d'être compté parmi tes serviteurs. Parce que de ton côté, tes serviteurs, tu ne les appelles pas serviteurs, tu les appelles amis. Et Seigneur, nous voulons continuer à marcher dans l'amitié avec toi. Nous voulons continuer à pratiquer la justice, à donner des mains et des pieds à notre foi. Nous voulons continuer à nous aimer les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres, à nous encourager les uns les autres, à croire les uns dans les autres, à nous remercier les uns les autres. Et Seigneur, nous voulons surtout marcher humblement avec toi. Tu es Dieu. Et quand on ne comprend pas, eh bien, ça me fait plaisir à moi, Seigneur, de savoir que tu es Dieu. Et que tu n'as pas de compte à me rendre. Seigneur, tu es souverain de tout. Tu es le maître de l'univers. Et c'est extraordinaire pour les quelques années qui nous sont prêtées sur cette terre, et bien de pouvoir marcher avec toi du mieux qu'on peut. Merci Seigneur. Dans la nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain. Il l'a rompu, il a dit « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Mangez-en tous. » À la fin du repas de Pâques, Pessah, il a pris la dernière coupe, il l'a levée, il a dit « Voici, prenez de la coupe, buvez de la coupe. C'est l'alliance en mon sang. C'est votre garantie. C'est votre bénédiction. Buvez-en tous. Amen. »